11h04, on est de retour dans Trudeau Landry. C'est ce genre de journée-là. C'est ce genre de journée-là où là, il nous reste 3 heures de radio à faire, peu importe ce qu'on va dire. Peu importe les sujets, les opinions, je sais que tout ce que les gens vont me parler en fin de semaine, c'est ma chemise. Et ça, puis les saucisses dans le vinaigre, hey. C'est ce que les gens auront retenu de notre week-end. Juste vous dire, sur mon Instagram, vous êtes malades, nos auditeurs. Vous êtes vraiment merveilleux. Là, le nombre de beaux commentaires que j'ai. D'ailleurs, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auditrices qui me disent que ma chemise est bien correcte. Même certains qui la trouvent belle. D'autres disent que vous êtes jaloux et que vous voudriez que je vous la donne.
Non.
C'est vraiment pas ça.
En fait, c'est vrai qu'elle était correcte, ta chemise, mais en 2003. Elle était bien correcte en 2003. Là,
c'est ça. Moi,
mon grand-père en avait des comme ça aussi. Non, je t'agace. Tu sais comment je t'ai...
Mais ce que j'ai pensé, là, c'est dans le fond, c'est Steph Dupont. Non, mais c'est ça. C'est Steph Dupont qui a lancé ça, qui a jeté un pavé dans la mare. Et vous trois, vous êtes embarqués dans le bandwagon. Et le lien qui vous unit, les quatre, c'est qu'il n'y a pas personne qui rentre dans ma chemise.
Exact.
Juste le mentionner comme ça, vous ne rentrez pas dans cette chemise-là.
Quelle grandeur.
Moi, ça fait 10 ans que je l'ai, puis je rentre encore dedans.
C'est une XL. C'est quelle grandeur ta chemise qui
a été? C'est large. Mais pour apprécier le temps.
On est capable de rentrer un bras, je sais pas le corps au complet, mais on est capable de rentrer un peu. Là.
OK, à cette heure-ci, normalement, on parle pas de chemise, on vous parle du bilan quotidien. Un bilan qui est, encore une fois, très, très, très encourageant. Je pense qu'on est rendu habitué, mais faut le souligner quand même. 180 personnes qui sont... testé positive à la COVID-19. Malheureusement, on déplore un décès, mais on va se le dire, là, chaque fois qu'on se rapproche du zéro, il y a quelque chose d'encourageant, même de réconfortant de voir qu'il y a de moins en moins de personnes qui décèdent, même si, évidemment, un décès, c'est toujours un décès de trop. Et pour ce qui est des hospitalisations, moins 7 encore aujourd'hui. On vous reviendra dans les prochaines minutes avec la répartition régionale. Je sais qu'entre autres, et je vous comprends parce que je fais partie de la région. Les gens de Chaudière-Appalaches ont très, très hâte de voir la décision finale. Là. En fait, la décision, elle est prise. C'est que Chaudière-Appalaches passe dans le jaune comme tout le monde lundi, mais il y a comme un... C'est comme si on était sous observation. Là. C'est comme si on disait... Tu sais, comme une permission à un enfant. Là. C'est de après-midi, tu vas avoir une crème glacée, mais faut que tu aies une bonne attitude toute la journée. Tu comprends? C'est un peu ça. Là.
Mais écoute, tu peux pas pénaliser... une région complète s'il y a des secteurs précis aussi où c'est plus problématique là. Tu sais, j'espère que tu sais sérieusement que c'est pas tout le monde qui va écoper pour ça, pour tout ça là.
D'ailleurs, il y a un auditeur qui m'a envoyé un tableau avec la répartition par secteur si on veut là en Chaudière-Appalaches et on se rend compte qu'effectivement, il y a des endroits que c'est plus difficile, là, particulièrement la Nouvelle-Beauce et Robert Clich, c'est vraiment dans la Beauce. Là, on parle lorsqu'on parle du nombre de cas actifs par 100 000 habitants, ben on est dans le 106-119 alors que la moyenne de la Chaudière-Appalaches c'était à 56, je pense, et c'est la moyenne la plus importante au Québec en ce moment, par 100 000 habitants.
Ouais.
Mais on voit que ces chiffres-là tirent le reste par le bas. Bref, on va espérer que ça s'enligne bien pour lundi.
Je viens d'allumer. Est-ce que les bars ouvrent aujourd'hui?
Les terrasses des bars.
Les terrasses des bars, excuse, c'est ça, les terrasses des bars.
Le reste,
ouais,
lundi.
C'est ça, lundi.
Okay,
on pourrait peut-être faire un. Si toi puis moi, qu'on a le nez dedans, on n'est plus sûr.
Ça devient mêlant à un moment donné.
Ça vaudrait la peine qu'on fasse un petit récapitulatif.
Je pense que c'est les terrasses des bars qui ouvrent aujourd'hui. Ouais.
C'est ça. Et pour ce qui est des activités sportives, là, on peut être 25 par plateau plutôt que 12, mais les parties ne sont pas encore autorisées parce que ça, c'est lorsqu'on est en zone jaune que les contacts brefs sont permis. Donc, ça veut dire c'est les équipes, par exemple, qui pratiquent en petits groupes de 8, à partir d'aujourd'hui, peuvent pratiquer 25, mais pas de partie. Même pas de partie hors concours. Ça va aller à lundi. Bon, on a un petit 72 heures à attendre.
Ben, j'avais un plan, pas pire, Marc, j'ai pas le temps, mais je trouvais que, puis je sais pas, c'est peut-être compliqué un peu, mais un beau setup sur une terrasse de bar cet après-midi pour Italie-Turquie, là, mettons à Montréal ou ailleurs au Québec, là. Oh boy, ça peut être le fun, ça.
Mmh.
Avec un petit verre de rouge. Je sais pas si ça va être possible, mais en tout cas, je pense que les terrasses vont être ouais.
OK, il y a quelques minutes, on parlait avec Raphaël Jacob de l'actualité aux États-Unis, mais là, on va parler un petit peu d'histoire américaine, mais qui a marqué à l'imaginaire de pas mal de la planète au complet. C'est un triste anniversaire qu'on souligne aujourd'hui, Nico.
Oui, il y a 20 ans aujourd'hui. Je pense que cet anniversaire-là, significatif pour une couple de raisons, mais on exécutait Timothy McVeigh il y a 20 ans aujourd'hui. Timothy McVeigh, c'est responsable de l'attentat d'Oklahoma City. Je vais vous faire un petit peu l'historique de comment on est arrivé là et surtout de ce qui arrive depuis. Timothy McVeigh, c'est un vétéran de l'armée, fanatique des armes. C'était un jeune homme coincé, intimidé à l'école, dit-on, qui a été accepté. Lui, il s'est trouvé sa famille quand il a commencé à triper sur les armes. Donc, les amateurs d'armes, paramilitaires et tout ça, l'ont accepté. Pas juste paramilitaire, parce que, comme je vous disais, c'est un vétéran de l'armée. Il a fait quelques années quand même dans le service actif. Enragé par la résolution du siège de Waco, Texas, en 93, le FBI a pris d'assaut le centre de David Koresh.
Oui.
Et ça a fait 75 morts majoritairement chez la gang de David Koresh.
Il y avait une série là-dessus récemment, je pense, sur Netflix.
Il y a eu une série et un film. Ouais. Il y a eu deux, trois projets simultanés à peu près, là, effectivement, qui sont faits là-dessus. Et lui, cet assaut-là, en 93, ça l'a convaincu que le gouvernement était l'ultime intimidateur. Lui qui avait été intimidé lorsqu'il était à l'école à l'époque. Donc, dans les années qui ont suivi l'assaut de Waco, il a retrouvé un copain de l'armée, d'abord Terry Nichols, et leur premier plan, ça a été d'assassiner Janet Reno, qui était l'Attorney General des États-Unis à ce moment-là. Ils ont aussi pensé d'assassiner le tireur d'élite du FBI qui avait participé à l'assaut de Waco au Texas. Il a fini plutôt par décider de faire exploser un immeuble gouvernemental. Il y avait un critère, pas trop de victimes civiles, c'était ça qu'il avait planifié en tout cas, et au moins deux organismes dans l'immeuble. FBI, DEA, Drug Enforcement Agency, ouais. Ou l'ATF, le Bureau des alcools, tabac, armes à feu. Leur choix, c'est finalement à McVeigh et Nichols, leur choix s'est porté sur l'immeuble Alfred P. Murray à Oklahoma City. Bâtiment de 9 étages qui finalement, bonus pour eux autres, abritait 14 agences gouvernementales, hey. Dont le FBI, entre autres. Le 19 avril 1995, donc 2 ans à peu près après Waco, armés d'une bombe artisanale de 4800 livres qu'ils avaient fabriquées donc eux-mêmes, McVeigh va stationner un camion Ryder contenant des explosifs devant la face nord de l'immeuble Alfred P. Murray. Et à 9h, il enclenche la minuterie de 2 minutes. Donc, à 9h02, la bombe explose. McVeigh est alors à une distance sécuritaire. Le tiers de l'immeuble est pulvérisé sur le coup. 168 personnes meurent, dont 19 enfants à la garderie de l'immeuble. 700 autres personnes ont été blessées de diverses façons. Le cratère que ça a laissé, c'est 30 pieds de large, 8 pieds de profond. Et 324 autres immeubles autour ont été endommagés par la force de l'explosion. McVeigh est arrêté 90 minutes plus tard parce qu'il conduit un véhicule sans plaque d'immatriculation. Et il y a une arme dissimulée. Fait qu'on l'arrête pour ça, sans penser nécessairement qu'il est relié à l'explosion qu'il y a eu. Puis pendant qu'il est menotté, McVeigh échappe dans la voiture de police une carte d'affaires. Puis c'est inscrit au dos. Du TNT à 5 piastres le bâton, j'en veux plus. Fait que c'est là que la police va commencer à voir s'il y avait un lien avec l'attentat. Le procès s'amorce 2 ans plus tard, en avril 97. Le jury délibère à peine 23 heures avant de condamner McVeigh pour les 11 chefs. Et il fut donc exécuté le 11 juin 2001. C'est la première exécution fédérale en 38 ans qui a eu lieu il y a 20 ans aujourd'hui.
C'était une injection?
C'était injection, oui, par injection létale.
Ça existe-tu encore, la chaise électrique?
Je pense pas. Ça fait des décennies qu'on a jugé que c'était
Quand j'étais kid, là, on entendait parler de ça dans les années 80, c'était épeurant, hein, la chaise électrique attachée, let's go. C'est une façon un peu, oui, effectivement, cruelle de mettre fin à la vie. Là.
Et il me semble, il y a eu des incidents de terrorisme domestique avant 2001, clairement. Mais depuis ce temps-là, mon impression, c'était qu'il y avait beaucoup plus d'incidents de terrorisme domestique que de terrorisme extérieur.
Provenant de l'extérieur.
Alors, je suis allé voir si ma prémisse était vraie. Et il y a entre autres 2 rapports gouvernementaux qui ont établi. Il y en a un de 2017, il y en a un de 2020.
Juste Nico, il y en a encore en passant.
Chaises électriques.
Ouais, Nicholas Sutton, 20 février 2020, Tennessee. Tennessee, beaucoup, là. 5 décembre 2019, 15 août 2019, 6 décembre 2018. Il y a Virginie qui, 2013, en faisait encore. Donc, mais c'est beaucoup Tennessee, là. Je sais pas si c'est le seul état, là, mais dans une liste là, de tous les derniers cas là, avec la chronologie. Et les 5 derniers, c'est Tennessee.
Mais c'est intéressant ton questionnement sur terrorisme domestique, donc de l'intérieur versus le terrorisme qui vient de l'extérieur.
Oui, parce qu'il y a une chose qui hante les Américains depuis deux décennies, puis ça va être le 20e anniversaire du 11 septembre 2001, c'est le terrorisme extérieur. Les islamistes et tout ça, puis ils en font quasiment une obsession. Je vous parle d'abord du rapport de 2017. Un rapport gouvernemental a établi que des 85 incidents de violence extrémiste depuis le 11 septembre 2001, donc 17 ans plus tard, 73% avaient été causés par l'extrême droite et 27% par des islamistes.
Ah ouais.
73% extrême droite américaine, on entend. 27% islamistes. Et pour les gens qui nous écrivent toujours, oui, mais les Antifa, oui, mais Black Lives Matter, aucune mort attribuée au groupe d'extrême gauche en 2001 et 2017, selon ce rapport gouvernemental. Zéro. Le rapport de juin 2020, lui, qui examine 25 ans de terrorisme domestique, disent que la droite extrême est responsable de 66% des attaques en 2019 et 90% des attaques en 2020 aux États-Unis. C'est l'extrême droite américaine qui en est responsable. Quelques-uns seulement des incidents de terrorisme domestique qui ont lieu depuis juste depuis 5-6 ans. La fusillade dans une église à Charleston par Dylan Roof, sûrement un nom qui vous dit quelque chose malheureusement. Oui. La fusillade à San Bernardino, 2015, c'était des résidents américains et non pas des terroristes externes. La fusillade contre les membres du Congrès américain, un match de baseball en juin 2017.
C'est vrai, c'était un match amical.
La manif de Charlottesville en 2017, lorsque quelqu'un de l'extrême droite a faussé en voiture dans la foule. L'attaque contre une synagogue de Pittsburgh en 2018 et l'attaque contre le Capitole en 2021, qui est même pas inclus dans les chiffres dont je vous parle, et ainsi de suite. C'est donc de loin l'extrême droite américaine qui, malheureusement, cause le plus d'incidents terroristes depuis le 11 septembre 2001.
L'auditeur a fait remarquer, je trouve ça pertinent comme propos, dans ce que tu nous dis là, les tueries de masse dans les écoles sont pas incluses. C'est par centaines.
Là, quand on parle de terrorisme intérieur, on parle de le faire pour une cause ou contre.
C'est ça.
Une cause ou une religion ou un groupe de gens, un groupe d'ethnie, ce qui n'inclut pas effectivement les tueries de masse dans les écoles. Rajoutez ça, puis vous pourriez, si vous voulez, effectivement les inclure là-dedans.
Il y a la question morale là-dedans, parce que tantôt quelqu'un nous écrivait au 25226. Écoute, il a fait fi, il parlait de McVie, là, des enfants qui étaient en garderie, donc il méritait la peine de mort. Ici, la peine de mort n'existe plus, je pense, depuis 1976 au Canada, mais je suis d'accord avec la personne qui nous a dit qu'il méritait la peine de mort. Dans des cas extrêmes comme ça, moi, je serais en faveur de la peine de mort.
Moi aussi.
T'es tellement déchaîné, t'as tellement tilté que tu t'en prends aussi à des enfants, puis sans aucun respect pour la vie humaine. Pour moi, ça, c'est le genre de crime qui, effectivement, mérite la peine de mort.
Puis sais-tu ce que je trouve paradoxal, puis je pensais à ça cette semaine quand on parlait du 12e féminicide.
Ouais.
On a décidé communément qu'on enlevait la peine de mort, j'imagine parce qu'on a décidé qu'on voulait pas prendre la chance de faire une erreur judiciaire et d'exécuter quelqu'un qui était peut-être innocent. J'imagine que ça a dû peser en
masse. Il y a eu l'affaire Coffin, je pense, qui avait eu un impact là-dessus. Là.
Mais je suis pas sûr qu'on a la même priorité quand on considère les libérations conditionnelles.
Ouais.
De prendre zéro chance de mettre la vie de gens innocents en jeu. Je pense entre autres à notre monsieur qui a tué une jeune femme ici à Québec l'année dernière, il y a deux ans.
Mais notre système est basé sur la réhabilitation des criminels.
Quelqu'un qui fait un attentat terroriste qui tue des dizaines et des dizaines de personnes, je m'excuse, tu peux pas non seulement réhabiliter, mais... J'ai bien de la misère à pardonner ça. Moi, je suis pas un militant pro-peine de mort, mais je suis d'accord avec toi, dans un cas comme celui-là, d'aucune façon, je suis capable de me dire « Ah non, mais il aurait dû... » Non, non, ce n'est pas une perte pour la société. Rapidement, Nico, est-ce que tu sais si l'histoire a démontré si l'attentat aurait pu être déjoué? Là, tu sais, des fois, tu as... Des signes qui ont été qui ont été oubliés.
Il semble pas avoir beaucoup de trucs comme ça. Être passé à côté d'une occasion où on avait clairement on aurait clairement pu mettre la main sur McVeigh, tout ça. J'ai rien vu de ça dans l'historique.
Tu faisais le lien avec Waco. Si vous n'avez pas encore vu la série Waco, faut vraiment regarder ça. C'est une des rares séries récentes des dernières années que j'ai regardé deux fois. Je l'ai regardé une fois toute seule quand ma blonde travaillait et je lui ai dit quelques semaines après, faut que tu écoutes ça. Je vais le réécouter avec toi, faut que tu écoutes ça. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette série-là avec entre autres, le frère de Macaulay Culkin qui a un rôle important dans cette série-là. OK, 11h20, on va s'arrêter dans Trudeau-Landry, 25-226 pour nous rejoindre.